VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, édition du lundi 11 septembre 2017, en direct de Washington, Idrissa Sédoudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara ne veut pas reprendre la tête du RDR, son parti.
Au Bénin, les autorités appellent à la mobilisation face au débordement de fleuves traversant le pays.
35 personnes sont mortes du choléra dans le nord-est du Nigeria, selon un nouveau bilan des autorités.
En Floride, plus de 3 millions de personnes sont sans électricité à cause du cyclone Irma qui se dirige maintenant vers le nord de l'État.
Commémoration aujourd'hui des attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a créé la surprise en déclinant la proposition des cadres et militants de reprendre la tête de son parti, le Rassemblement des Républicains. Au terme d'un discours de près de 2 heures, pour la journée de clôture du Congrès, il a proposé Henriette Diabaté, une des figures du mouvement. Elle a ensuite été désignée présidente du RDR sous les acclamations. Monsieur Ouattara a cependant été désigné président d'honneur du RDR.
Les autorités béninoises appellent à la mobilisation pour faire face au débordement de certains fleuves traversant le pays. C'est le cas du fleuve Niger, dont les eaux montent du fait de fortes pluies en amont au Niger et au Mali depuis le mois de juin. Timothée de Nangmaï a joint Inoussa Danka Koé, maire de la commune de Malanville, dans le nord du Bénin.
Ce n'est pas seulement notre ville. Nous avons au moins 70 kilomètres de long par rapport au fleuve et des mesures sont déjà prises avec la plateforme de réduction des risques de catastrophes naturelles que nous avons déjà mise en place au niveau communal, au niveau du département de l'Alvorie. Le préfet lui-même a fait le déplacement pour s'enquérir de tout ce que nous avons eu à faire. Des équipes sont à pied d'œuvre et beaucoup de gens qui se situent sur les berges du fleuve sont délogés pour être relogés sur des sites très viabilisés. Les premiers soins sont apportés à tous ceux qui sont inondés déjà et ceux qui le seront, on a prévu de les mettre loin, loin du fleuve.
C'était Inoussa Danka Koé, maire de la commune de Malanville, dans le nord du Bénin.
35 personnes sont mortes du choléra dans le nord-est du Nigeria, touchées par une épidémie de la maladie infectieuse, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé de l'État de Borno dimanche. Le nombre de morts s'élève à 35, selon un communiqué du ministère qui ajoute que le nombre total de cas suspects de choléra est désormais de 1283. La plupart des décès et des cas suspects ont été enregistrés dans le camp de déplacés Garage Mouna, qui abrite quelques 20 000 personnes ayant fui les exactions du groupe djihadiste nigérian Boko Haram dans la banlieue de Maïdougouri.
Au moins 4 personnes ont été tuées et 13 autres blessées dans un attentat suicide revendiqué par les insurgés islamistes Shebab dimanche à Beledweyne dans le centre de la Somalie. Le kamikaze s'est fait exploser dans un café situé en face des locaux de l'administration régionale. Le kamikaze est arrivé en courant, puis il y a eu une forte explosion. Il y avait des cadavres et des personnes blessées au sol, a rapporté à l'AFP un témoin de la scène. Les Shebab ont revendiqué l'attentat dans un communiqué posté sur le site internet de leur station Radio Andalus, affirmant qu'il avait fait 6 victimes, toutes des militaires.
En Égypte, 10 militants islamistes présumés ont été tués dimanche dans un raid des forces de sécurité près du Caire. Selon les autorités, ces hommes appartiennent à Province du Sinaï, une organisation djihadiste qui a prêté allégeance au groupe État islamique en 2014. 5 membres des forces de police ont été blessés dans ce raid. Les échanges de tirs ont duré plusieurs heures à Ard el-Lewa, un quartier populaire du gouvernorat de Giza, à l'ouest du Caire.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Floride, plus de 3 millions de personnes sont sans électricité à cause des effets du cyclone Irma qui a balayé des parties de cet État avec des vents de plus de 200 km/h. L'ouragan s'est légèrement affaibli alors qu'il avance lentement vers le nord, mais ses vents soufflaient malgré tout à plus de 165 km/h. Le cyclone s'est abattu tôt dimanche sur l'archipel des Keys, alors classé en catégorie 4 sur une échelle de 5. Dans la soirée, il menaçait Tampa et Saint-Pétersbourg. Nous avons joint dans cette dernière ville où il s'est réfugié avec sa famille, le docteur Yves Renaud.
C'est un phénomène qui a créé beaucoup de difficultés, que ce soit à la côte est de Miami, que ce soit à la côte ouest. Et ça va arriver bientôt du côté de Saint-Pétersbourg, mais on sent déjà les vents et ça va arriver aussi vers Tampa au cours de la nuit. Mais pour l'instant, il n'y a pas de perte en vie humaine. Beaucoup de gens qui vivaient à Miami, pensant faire une bonne décision, avaient évacué du côté de Tampa ou bien du côté de Orlando. Il se trouve que le cyclone se dirige de préférence de ce côté-là. Même si on a des modèles cycloniques, le cyclone, lui, n'a pas de modèle, il n'avait pas demandé l'autorisation de signer un modèle pour son parcours.
Vous parliez de Miami et des grues qui tombaient, mais vous disiez aussi qu'il n'y avait pas de perte en vie humaine.
Non, oui, exactement. On n'a pas eu de rapport à Miami qui a eu des pertes en vie humaine. Mais sur la côte ouest de la Floride, il y a eu malheureusement 3 policiers qui apparemment emmenaient des prisonniers en sécurité. Le policier et une aide, je crois qu'ils ont perdu leur vie malheureusement dans un accident de voiture. C'est ce qui a déploré pour l'instant 3 pertes en vie humaine.
C'était le docteur Yves Renaud de Miami. Il nous parlait de Saint-Pétersbourg en Floride où il s'est réfugié. Ajoutons que le président Donald Trump a déclaré l'état de catastrophe naturelle en Floride, ce qui devrait permettre de fournir plus rapidement de l'aide fédérale aux victimes de l'ouragan.
Au Mexique, le bilan du tremblement de terre dans le sud du pays s'est alourdi et s'établit maintenant à au moins 90 morts, la plupart dans l'état d'Oaxaca. Ce séisme d'une magnitude de 8,2 a secoué la région jeudi, peu avant minuit.
La Corée du Nord a mis en garde aujourd'hui contre de nouvelles sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies en réaction aux tests nucléaires et tests de missiles de Pyongyang, disant que les États-Unis le paieraient cher. Un porte-parole officiel nord-coréen a qualifié d'illégal la proposition américaine pour des sanctions supplémentaires contre le régime de Kim Jong-un, notamment un embargo sur les livraisons de pétrole et de gaz naturel et un gel de tous les avoirs étrangers de Kim et de son gouvernement.
Commémoration aujourd'hui des attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York et à Washington. Il y aura une cérémonie avec le président Donald Trump à la Maison-Blanche à 8h40, l'heure à laquelle le premier des 4 avions détournés par les terroristes d'Al-Qaïda s'est écrasé sur une des 2 tours du World Trade Center avant que la seconde ne fut atteinte 23 minutes après par un autre appareil. M. Trump se rendra ensuite au Pentagone, attaqué et endommagé par un 3e avion. Le 4e est lui tombé à Shanksville, en Pennsylvanie, où est attendu aussi le vice-président Mike Pence.
Les autorités irakiennes ont annoncé dimanche avoir placé dans un camp plus de 1300 femmes et enfants étrangers en attendant leur rapatriement. Il s'agit, disent-elles, de membres de familles de militants présumés du groupe État islamique. Timothée Donangmaï.
Originaires pour la plupart de Russie, de Turquie et de pays d'Asie centrale, de même que certains pays occidentaux, ces femmes et enfants s'étaient rendus aux forces kurdes le mois dernier après que les troupes irakiennes ont chassé le groupe État islamique de la ville septentrionale de Tar Aftar, près de Mossoul. Soupçonnés d'être des combattants islamistes, les hommes qui étaient en leur compagnie ont été, eux, envoyés dans des centres de détention. Première étape de l'opération de rapatriement, la vérification de la nationalité des femmes et des enfants. Une opération difficile puisque plusieurs ne sont plus en possession de leur passeport ou document de voyage. Les autorités irakiennes doivent rapidement clarifier leurs intentions au sujet de ces personnes, a fait savoir le Conseil norvégien pour les réfugiés qui soutient 541 des femmes et leurs enfants. Tout comme les personnes fuyant les conflits, ces femmes et leurs enfants doivent impérativement avoir accès à la protection, l'assistance et l'information, a souligné l'ONG qui estime que leur situation actuelle équivaut à une détention de fait.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco d'Ili Déco.
En Zambie, une compagnie chinoise décroche un projet de 1,2 milliard de dollars pour la construction d'une route à deux voies. Longue de 321 km, elle reliera la capitale zambienne Lusaka à la ville de Ndola, située au centre du bassin de production de cuivre du pays. Ce projet routier devrait être réalisé en 4 ans et créera plus de 3000 emplois. La Chine est présente dans plusieurs domaines en Zambie, notamment l'agriculture, les mines et l'énergie, à travers la construction d'un barrage hydroélectrique. Au Congo, le ministre des Affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala, a annoncé que les propriétaires terriens disposent d'un mois à compter du 7 septembre pour se faire enregistrer dans un fichier commun au risque de se voir infliger des sanctions sévères. Il a expliqué que le référencement des propriétaires terriens dans ce fichier unique a pour but de mettre en place des mesures permettant de réorganiser le secteur foncier au Congo. L'Éthiopie et le Cameroun ont révisé leur convention du transport aérien lors d'une réunion commune à Yaoundé, selon l'agence Ecofin. La réunion avait pour objectif de remodeler l'accord sur les services aériens bilatéraux en y incluant de nouveaux dispositifs de sécurité aérienne, un système de location d'aéronefs et un partage de codes.
À présent, les sports avec Élisée Ungpatin. Bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
On commence par le basket avec le championnat d'Afrique Afrobasket, co-organisé par le Sénégal et la Tunisie.
Oui, on connaît justement l'affiche des quarts de finale et on aura entre autres un Sénégal-Angola très attendu. Également le duel du Maghreb entre le Maroc et l'Égypte. Plus de précisions avec Amédine Sy, notre correspondant permanent VO Afrique à Dakar.
À Dakar, la compétition a été marquée par le parcours sans faute du Sénégal et du Maroc qui terminent respectivement à la tête de la poule B et des qualifiés. Avant cette troisième rencontre, les Lions de la Teranga ont terminé en beauté, en alliant spectacle et efficacité à la grande joie du public qui a chauffé le stade Marc Ndiaye. Gorgoussidien et ses poulains qui ont battu l'Afrique du Sud, l'Égypte, se sont offerts le Mozambique sur le score de 80-49, soit 31 points d'écart. Avec cette belle victoire, le Sénégal conserve son fauteuil de leader. À la deuxième place, on retrouve l'Égypte. Dans la poule D, le Maroc a créé la sensation en terminant à la première place au nez à la barre de l'Angola. Les Lions de l'Atlas ont fait un carton plein en battant la République centrafricaine, l'Angola et l'Ouganda. Les Angolais se contentent de la deuxième place après leur victoire sur la République centrafricaine. Le Sénégal croisera donc l'Angola. Ce sera le choc de ces quarts de finale. L'autre quart de finale opposera le Maroc à l'Égypte. Dakar, Amédine Sy. Afrique.
Football, le coup d'envoi du nouveau tournoi de l'UFOA a été donné à Cape Coast, au Ghana.
Effectivement, et hier, le Niger s'est qualifié pour la phase de poule en disposant du Burkina Faso 2-1 lors du tour préliminaire. Même score en faveur de la Guinée face à la Guinée-Bissau. Déjà la veille, le Ghana pays hôte a écarté la Gambie 1-0, tout comme le Sénégal qui a eu raison du Libéria au tir au but 5-4, 0-0 après le temps réglementaire.
La suite des rencontres aujourd'hui et deux matchs au programme.
En première heure, le Mali sera face à la Mauritanie et à 18h UTC, le Nigeria affronte la Sierra Leone. Suite et fin de ce tour préliminaire demain avec Côte d'Ivoire-Togo et Bénin-Cap-Vert. Assiant les co-termes de ce tour préliminaire, les 8 pays qualifiés seront répartis en deux groupes de 4 équipes.
Du cyclisme également dans l'actualité sportive avec le départ du Tour de Côte d'Ivoire.
C'était hier et première étape dans le nord du pays à Korogo, remportée par le Belge Mathias Leglet sur un circuit fermé de 82 km. Il était suivi du Marocain Rabil Ilias et de son compatriote Bouvry Deter, respectivement deuxième et troisième. La seconde étape longue de 116 kilomètres se déroulera aujourd'hui entre Katiola et Bouaké.
Tennis pour terminer, Kevin Anderson n'a pas réalisé l'exploit à l'US Open.
Oui, le Sud-Africain s'est incliné facilement en finale devant l'Espagnol Rafael Nadal en 3-7, 6-3, 6-3 et 6-4. Le numéro 1 mondial remporte ainsi son deuxième grand chelem de l'année après Roland Garros et son 16e dans sa carrière. Il se rapproche ainsi de Roger Federer qui en compte 19.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, le fichier électoral 2017 affiche plus de 6 500 000 électeurs, soit 403 000 nouveaux inscrits par rapport à l'an dernier. La publication de ces chiffres par Election Cameroun, l'organe en charge d'organiser et de superviser les scrutins, suscite des commentaires au sein de la société civile de Yaoundé. Emmanuel Jules Tap.
Pour le moment, certaines formations politiques du Cameroun, partis au pouvoir et opposition, se refusent à tout commentaire quelques jours après la publication du nombre d'inscrits sur les listes électorales en 2017 au Cameroun. Par contre, côté société civile, le chiffre de 6 500 000 inscrits ne laisse pas indifférents certains acteurs du processus électoral, à l'instar du mouvement Les Souverains. Marie-Jeanne Abega est la présidente nationale des femmes. Les chiffres de Elecam de la Suprême Guerre.
Pour les Camerounais, s'inscrire ou pas s'inscrire, c'est la même chose. Ils savent que dorénavant, le parti au pouvoir a déjà gagné les élections. Autre chose, nous avons notre majorité qui est à double vitesse. La majorité pénale à 18 ans, la majorité électorale à 20 ans. Pourquoi éliminer l'autre majorité qui a 18 ans alors qu'on sait que cette masse-là est plus nombreuse que celle qu'on privilégiait à l'âge de 20 ans?
Très active sur le terrain, entre mai et août 2017, l'opération 11 millions d'électeurs dirigée par un jeune Camerounais de 39 ans, Cabral Libi, a nourri beaucoup d'espoir. L'opération a-t-elle échoué? Au regard des statistiques de Election Cameroun, Armand Okol, responsable du pôle action de terrain de l'opération 11 millions d'inscrits, explique le gap entre leurs prétentions et la réalité des chiffres.
Donc, en fixant la barre à 11 millions, nous avons bien voulu aller sur le faisable. Malheureusement, vous avez encore des pesanteurs. À plusieurs endroits, on a rencontré des personnes qui étaient motivées, décidées à se faire inscrire, sauf que les kits n'étaient pas toujours disponibles. Dans l'arrière du pays, plusieurs Camerounais n'ont ni acte de naissance, ni carte nationale d'identité. Tout ça fait que malgré l'intérêt, le nombre d'inscrits n'a pas pu être celui que nous avons fixé.
Selon les statistiques de Election Cameroun, les Camerounais de sexe masculin se sont plus mobilisés au cours de cette année pour s'inscrire sur les listes électorales comparativement aux femmes. La région de l'extrême nord qui vote généralement le parti au pouvoir reste en tête des inscriptions sur les listes électorales avec plus d'un million d'électeurs. Le sud-ouest en zone anglophone ferme la queue. Joint au téléphone, Dr Hilaire Kamga de Mandela Center pour la démocratie parle d'un hold-up électoral en vue.
On ne peut pas, en 2013, avoir dit qu'il y avait 7 millions de fichiers électoraux, venir aujourd'hui nous dire en 2017 qu'on a eu 400 000 ouins. C'est naturellement le nœud du problème. Le hold-up électoral qui se prépare est lié d'abord aux chiffres et au type de leadership qu'on a mis en place, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'égard avec vis-à-vis de la loi.
À la direction générale de Election Cameroun, actuellement nous fait savoir une source en interne, leur est au nettoyage du fichier électoral et non aux commentaires. Emmanuel Jules Tap, Yaoundé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos. Et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le nouveau coordonnateur des secours d'urgence et secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des affaires humanitaires est en tournée dans le bassin du lac Tchad. Mark Lowcock est allé s'entretenir avec les personnes affectées par la crise sécuritaire née des exactions de la secte Boko Haram. Notre correspondant à Niamey, Abdelrazak Idrissa, nous parle de l'étape du Niger.
Au Niger, c'est le site de Gagam, situé à 50 km de Difa, que le responsable onusien a visité. Il compte près de 13 500 personnes, réfugiés nigériens et déplacés internes du Niger compris.
Je m'appelle Laoula Mamadou, âgé de 59 ans, d'où on vient de Barwa. Un village au nord situé à au moins 25 km au nord de Bosso. Pour la sécurité, ça va du mieux. Mais on a toujours peur de que quelque chose sonne, tu es à l'alerte, tu es prêt. Tu ne peux pas te déshabiller. Tu es toujours en forme, tu dors. Dès que tu comprends quelque chose, tu te sauves.
Malgré la relative accalmie sur le plan sécuritaire, Les habitants du site sont toujours inquiets et les conditions de vie sur le site sont de plus en plus difficiles. Très peu de nourriture et un difficile accès aux soins, explique Zara Mustafa, venue ici de Malam Fatori au Nigeria depuis une année. Assise devant sa maison de fortune, entourée de ses petits-enfants, Fanta Harry, âgée de 55 ans, est elle venue de Barwa, c'est dans la commune de Bosso. Son problème, c'est qu'elle n'a pas assez de nourriture pour elle et pour les enfants. Tout cela a été dit au coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU qui a longuement échangé avec les habitants du site de Ngagam. Il a déclaré avoir pris acte et rendra compte pour un plaidoyer au cours d'une rencontre sur la situation humanitaire dans le bassin du lac Tchad dans quelques jours à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.
Et donc tout ce qu'ils m'ont raconté, voilà ce que j'aimerais raconter là-bas. Et si les personnes ne réagissent pas par rapport à ce que, aux narrations que je vais leur faire, je vais leur demander de venir eux-mêmes ici, écouter et entendre et voir de vive voix.
Thank you very much.
Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Tchad, les anciens rebelles de la force de ratissage pour le regroupement et de redressement du Tchad, ralliés au régime du président Idriss Déby Itno en 2006, sont mécontents. Ils dénoncent ce qu'ils appellent la mauvaise foi du gouvernement quant à la mise en œuvre des clauses de l'accord de paix qu'ils ont signé avec lui il y a une décennie. Le général Yahya Batitali, ex-chef de ce mouvement rebelle, menace de saisir, je cite, la Cour pénale internationale pour faire la lumière sur ceux qui, selon lui, se sont sacrifiés pour maintenir M. Déby au pouvoir. De N'Djamena, André Kotmadjingar.
Il n'y a que les 7 pays qui peuvent débloquer la situation. Ici, là, est-ce que la justice peut faire quelque chose?
Le général de brigade à la retraite, Yahya Batit Ali, et ses éléments se rendent compte plus de 10 ans après l'accord de Tripoli, signé en 2006, qu'ils ont été roulés dans la farine par le régime. Après avoir adressé plus de 20 lettres de rappel aux premiers ministres qui se sont succédés sans succès, ils sortent de leur silence et revendiquent leur part de gâteau dont le montant se chiffre à plusieurs milliards de francs CFA. Le général Yahya Batit Ali revient sur les conditions de l'accord paraphé avec le régime de N'Djamena sous l'égide du guide de la révolution libyenne feu Muammar Gaddafi en 2006.
Conditions de l'accord exigées par l'ex-verté à Adré et accordées par le président de la République lui-même, ministre de la Défense nationale pour le FR, ministre de l'élevage, déjà de la douane, déjà troisième adjoint de Saint-Marc, deux gouverneurs, deux préfets. Nos récompenses sont humiliation, exclusion, oubli, sciemment, isolement, embargo de famine et financier.
Selon toujours le général Yahya Batit Ali, à l'issue de cette négociation, où 9 mouvements politico-militaires du FUC Front Uni pour le Changement ont pris part, son mouvement, la FRT, a été le tout premier à accepter sans hésitation à faire la paix avec le régime de N'Djamena. C'est ainsi que 1600 éléments ont regagné le Berkay avec moyens roulants, armes et munitions et ont participé à tous les combats aux côtés du chef de l'État, au nombre desquels la guerre du 2 et 3 février 2008. Malheureusement, ces éléments ont été récompensés en monnaie des singes, comme en témoigne quelques éléments démobilisés.
Je suis militaire, retraité en
2011. Je n'ai rien reçu de toutes les promesses qu'on nous a faites. Mon mari a été tué en pleine guerre et c'est le général Yahya Batit qui s'occupe de nous. Que le président de la République verse le droit de nos maris tombés sur les champs de bataille pour nous permettre d'éduquer nos enfants.
Je suis l'épouse de Alabo Defala, militaire à la Foudrière, tué il y a de cela 7 ans pendant la guerre d'Amdam. Je suis mère de 6 enfants. Depuis le décès de mon mari, l'État ne pense même pas à nous. On vit dans la misère.
Moi, j'étais commandant de régiment à Tissi et mis à la retraite en 2011 sans droit avant même l'âge requis. Nous sommes des pères de famille. Nous n'avons ni détourné l'argent de l'État, ni troublé l'ordre public. C'est du népotisme pur et simple.
André Kodmadjingar N'Djamena, VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Nord Kivu, moins de 10% des enfants ont des actes de naissance, selon le dernier rapport de l'UNICEF. C'est ainsi que depuis l'année dernière, l'UNICEF RDC, en collaboration avec la justice congolaise, donne des jugements supplétifs, surtout aux enfants nés de viol, aux orphelins de guerre et aux enfants, aux ex-enfants soldats, recrutés de force par les groupes armés. Plus de 1300 enfants recensés par l'UNICEF ont bénéficié de ce document fondamental dans le territoire de Rutshuru, dans l'est de la RDC. Reportage de Charlie Kasereka.
Parmi eux, il y a des ex-enfants soldats, un phénomène très courant dans cette région qui regorge de plus d'une dizaine de groupes armés et qui recrute souvent par mode d'enlèvement. Patrick, un pseudo donné à ce jeune homme de 16 ans pour sa protection, il est parmi ces enfants victimes, forcé de participer aux activités criminelles de la rébellion rwandaise des FDLR. Aujourd'hui, il a d'autres orientations comme il vient de recevoir son document qui approuve sa nationalité congolaise. Il veut surtout continuer avec ses études.
Quand tu arrives dans ce groupe, on te donne directement un autre nom. J'ai été recruté de force dans la rébellion de FDLR. J'y ai passé 4 années, j'ai été blessé par balle sur mon œil. J'ai maintenant 16 ans et je veux continuer avec mes études et je pense que ce document m'aide pour prouver ma nationalité congolaise.
L'Organisation des Nations Unies pour la protection de l'enfance, UNICEF RDC, qui a facilité ces audiences et qui assure l'intégration sociale de ces enfants, se félicite et veut continuer pour aider plus d'enfants dans la même situation. Monsieur Ile-de-France est administrateur protection de l'enfance zone est de la RDC pour UNICEF.
Pour le Nord Kivu, l'enquête qui a eu lieu en 2012-2013 a démontré effectivement qu'il n'y a que 7% des enfants du Nord Kivu qui avaient leurs actes de naissance. C'est un taux très très bas. Et donc, il faut effectivement qu'on puisse mettre en place des dispositifs qui leur permettent d'avoir des actes de naissance après les 90 jours qui sont prévus par la loi.
La cause principale de cette situation reste l'ignorance des parents, mais surtout la situation des conflits dans ces vastes territoires situés à plus de 75 km au nord de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Le président du tribunal de paix de Rutshuru explique.
Depuis l'installation du tribunal en 2013 après la guerre du M23, les parents se sont plaints qu'ils manquent les actes de l'état civil. Les enfants qui viennent de bénéficier des actes de l'état civil aujourd'hui de naissance, ils sont au nombre de 1600. Oui, les enfants qui mangent entre 0 à 17 ans. Et c'est le travail qui vient de commencer. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de guerres ici à répétition.
La guerre, le chômage et l'absence de l'autorité de l'État dans certains coins de ces territoires a changé les modes de vie. Marie-Jeanne n'a pas revu son jeune garçon kidnappé depuis 4 ans maintenant, alors que la famille avait payé la rançon demandée par les ravisseurs.
On avait donné la rançon demandée, mais 4 ans aujourd'hui, sans aucune nouvelle de mon fils. La situation a changé avec le phénomène kidnapping de voyageurs. Le mauvais état de la route, il n'y a plus de clients et beaucoup de gens ont abandonné leur champ suite à l'insécurité.
Le mauvais état de la route sur la nationale numéro 2 vient encore intensifier les problèmes et ne facilite pas les affaires pour ses vendeurs à la sauvette. Charlie Kasereka, depuis le territoire de Rutshuru, pour VOA Afrique.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la voie de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Montou de RM Show sur VOA Afrique, en direct de Washington, la capitale des États-Unis d'Amérique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel, au programme de la bonne musique. Notre sujet de cette semaine, quelle vision les adolescents ont-ils de l'amour? Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Envoyez-nous vos SMS, WhatsApp ou Viber au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. Contactez-moi aussi sur ma page Facebook Roger Montou, la voix de l'Amérique. RM Show, c'est ce soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.